Bonsoir à toutes et à tous, c'est ce soir le SII, Syndicat de l'Industrie Informatique, qui vous propose une émission qui va parler principalement des innovations technologiques et du do-it-yourself. On va voir un petit peu ce que c'est. Alors pour ce faire, nous avons Colin à la technique, qui va aussi essayer, tant bien que mal, de participer et de nous faire profiter de son expérience en la matière.
Mais oui, tout à fait, je suis là pour ça. Bonsoir à tous.
Et Clément du syndicat.
Bonsoir.
Moi-même, Guillaume du syndicat. Et peut-être Salah, s'il arrive à se libérer de son patron qu'il exploite à des heures totalement indues. Voilà. Peut-être tout à l'heure en guest. Alors, on va commencer. Donc, l'idée ce soir, ce qu'on voulait proposer un petit peu, c'était de parler de cette notion qui est le do-it-yourself, c'est-à-dire pour les non-anglophones. Fais-le toi-même, c'est cette logique de, plutôt que de, on va dire de donner à des spécialistes des compétences pour faire tout et n'importe quoi, de se réapproprier tout ce qui peut être dans tous les domaines, de savoir faire des choses par soi-même, que ce soit manuel, que ce soit intellectuel. Et on voulait mettre cette notion un petit peu en corrélation avec ce qu'on appelle, alors on verra, tort à raison, chacun aura son avis sur la question, mais en tout cas ce qu'on appelle les innovations technologiques, les nouvelles technologies qui se présentent, et on va essayer de parler notamment, mais pas forcément exclusivement, de l'imprimante 3D qui fait ce que les médias appelleraient le buzz en ce moment, et aussi par exemple de la carte Raspberry, on verra ce que c'est tout à l'heure. Avant de commencer, je vous rappelle quand même le numéro de l'émission, numéro de téléphone si vous voulez nous joindre, poser des questions, faire des remarques, le 01 43 71 89 40, qu'on essaiera de rappeler de manière assez régulière.
Oui, et pendant les pauses musicales, s'il vous plaît, on n'a pas des millions de bras ici dans le studio.
Oui, bonne remarque, essayez d'appeler pendant les pauses musicales, sinon vous risquez de vous prendre un vent, ce qui serait fâcheux. Alors, et si on entrait tout de suite dans le vif du sujet, donc on va dire le sujet principal qu'on avait en tête, c'était l'imprimante 3D. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu l'objet qui fait le buzz en ce moment, en tout cas dont on parle pas mal dans les médias. Alors peut-être pour commencer, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler ou qui ne verraient pas très bien ce que ça peut être, et de voir ensuite... Est-ce que chacun en pense? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Au contraire, est-ce que c'est plutôt un objet satanique? On verra, selon les avis. Alors déjà, peut-être une définition de ce que c'est, rapidement, et après peut-être je te passerai la parole, Colin, si tu veux expliquer ton expérience à toi, puisque tu en as conçu une. Mais en gros, dans les généralités, une imprimante 3D, c'est une machine de fabrication qui peut potentiellement fabriquer toutes sortes d'objets en trois dimensions. Donc ça peut être, je ne sais pas, un porte-clés, ça peut être une clé, un bibelot, ça pourrait être, on verra tout à l'heure, une arme à feu ou n'importe quoi, ça peut être ce qu'on veut, on va lui injecter un fichier 3D qui va dire, voilà, dessine-moi en trois dimensions tel objet, et la machine va le faire. Donc par une succession de couches, en fait, elle va savoir dessiner. Après, il y a différentes méthodes. Moi, personnellement, je ne rentrerai pas dans la technique parce que je ne m'y connais pas assez bien dans le domaine. Il y a différentes méthodes, mais la machine est capable, voilà, en trois dimensions, de créer un certain nombre d'objets. Est-ce que, Colin, tu veux nous dire un petit peu ce que toi, tu en sais, sachant, si je ne me trompe pas, que tu en as fabriqué une à la maison?
Oui, je peux expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Alors en fait, quand on dit imprimante 3D, ça imprime des objets. La plupart, les objets, en fait, ils sont en plastique. Hein, ça imprime du plastique. Et donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça va déposer des couches de plastique au fur et à mesure pour former une pièce. Donc, comme si on commençait par déposer une première couche, donc la base, ensuite on dépose une autre couche pour faire des détails, etc. Donc au fur et à mesure, en fait, cet empilement de couches va former un objet en dur, en plastique. Voilà. Donc, et d'où l'impression. Voilà.
Mais t'as certaines contraintes quand même. Tu peux pas faire des objets qui ont des trous à l'intérieur. Enfin, il y a des. Tu peux pas imprimer n'importe quoi, non?
Alors, si tu peux faire des trous à l'intérieur, mais tu as des contraintes parce qu'il faut, s'il y a un trou à l'intérieur, il faut pouvoir que il faut une structure pour soutenir ce que tu vas rajouter par-dessus, en fait. Donc du coup, tu vas avoir un trou, mais peut-être que ça va pas tenir suivant les techniques que tu fais, que tu utilises pour imprimer. Donc si c'est faire un trou à l'intérieur, c'est possible. Mais ça complique un peu les choses, mais c'est possible.
D'accord.
Après, peut-être que vu que tu ne peux pas forcément, enfin, tu veux pas que ta pièce s'écroule à l'intérieur quand tu l'imprimes, tu peux éventuellement faire en sorte d'avoir un accès facile dans la façon dont tu conçois la pièce, de pouvoir la percer ensuite, donc retirer de la matière éventuellement,
D'accord.
voilà, pour faire ton trou ou pour faire ton vide à l'intérieur.
D'accord. Donc tu dis, finalement, on peut faire actuellement, en tout cas, on sait faire que du plastique, grosso modo.
Oui, grosso modo, c'est du plastique. Hein. On ne peut pas imprimer de métal. Non, ça, c'est pas possible. Ça, il faut le faire fondre et faire des moules. D'ailleurs, on peut faire des moules à partir de plastique. On pourra en reparler plus tard. Et donc, du coup, faire des objets en métal à partir d'une imprimante 3D.
C'est-à-dire qu'en gros, avec ton imprimante, tu crées un moule qu'ensuite tu vas utiliser pour fondre du métal qui va te servir là à faire des pièces en métal, par
Alors,
exemple.
en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Avec une imprimante 3D, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a tout un tas d'outils qui sont disponibles, outils informatiques, qui permettent de créer des pièces. Voilà, donc je décide de créer mon pommeau de porte. Voilà, hop, je le crée, il n'y a pas de souci. J'utilise mon outil de design 3D coin-coin qui va bien. Ça, je crée ma pièce en informatique et ensuite je la convertis dans un format que l'imprimante comprend pour pouvoir l'imprimer. Voilà, ça c'est la base. Hein. Donc c'est comme ben je fais mon objet et en 3D et puis je clique sur imprimer en quelque sorte et pouf, c'est magique, ça le fait tout
Oui,
seul.
comme une impression qu'on ferait en 2D, je sais pas, on a envie d'imprimer un document X ou Y qu'on vient de taper sous Word, on fait imprimer, machin, là ce serait un peu pareil, ce ne serait pas un document Word, ce serait un document dans un autre format spécifique pour l'imprimante 3D.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est l'idée. Donc après l'imprimante va imprimer cet objet. Donc si tu veux, comme on le disait tout à l'heure, créer un objet en métal, tu peux imprimer ton objet en plastique. L'objet que tu veux en métal, tu l'imprimes d'abord en plastique. Ensuite, tu te fais un moule à base de terre, base de terre glaise, je sais pas exactement quoi, enfin des trucs qui résistent à la chaleur.
Ouais.
Tu chauffes très fort ce moule pour faire évaporer le plastique. Et ensuite, tu peux couler à l'intérieur du métal, si ça te fait plaisir. Voilà. Donc
Ouais.
c'est une technique, c'est une petite astuce, on va dire, pour pouvoir faire du métal. Des objets en métal.
D'accord, en passant par l'imprimante 3D, mais ça
Voilà, c'est
demande
un
quand
peu
même
ça.
un
Il
petit
faut
peu de
toujours,
maîtrise, quoi.
ouais. Il faut couler du métal en fusion, donc j'imagine c'est 1000 degrés ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est
Ouais,
faisable,
selon
hein.
le
Il
métal.
faut, ouais, il faut juste faire son four et puis chauffer très fort, mais c'est faisable tout ça.
Ah, disons que c'est faisable, mais peut-être difficilement à la maison. Enfin, ça dépend après ce qu'on a comme ustensile à la maison. Moi, personnellement,
Oui, d'accord, non, ça se fait pas à la maison. Hein. Faut pas essayer, ça, faut surtout pas
ouais.
essayer de couler du métal dans
Ne
son
tentez pas
appartement,
chez
ça ne
vous.
marchera pas. Enfin, c'est dangereux. Bon, en tout cas, si vous êtes mes voisins, n'essayez pas, s'il vous plaît.
Fortement déconseillé. Oui, donc bon, il y a des applications possibles, mais bon, bien sûr, ça reste limité, en tout cas dans l'état actuel de la machine. Alors moi, en revanche, sur cette notion d'imprimante 3D, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de flou artistique dans ce qui est présenté. Alors, je suis pas un consommateur de médias, donc en même temps, je suis pas forcément très fiable sur la question. Mais j'ai l'impression que la manière dont c'est présenté, on nous dit ouais, c'est une machine, bientôt tout le monde l'aura chez soi et on pourra fabriquer en gros tout ce qu'on veut sur commande. Limite, t'imagines un truc futuriste ou par commande vocale, tu lui dis tiens, fais-moi un pneu, fais-moi une pièce pour mon frigo et puis tu le changes, machin. J'ai l'impression que on en est quand même, pour le moment en tout cas, très loin. Et puis ça demande quand même des compétences techniques qui sont assez hors de portée du citoyen lambda. Enfin, en tout cas, moi, je ne me sens pas de coder un fichier 3D que j'enverrai à mon imprimante en lui disant voilà, je t'ai tout préparé, fais-moi la petite pièce qui va bien.
En fait, c'est
une expertise, quoi.
Oui, c'est sûr que ça demande de l'apprentissage. C'est pas quelque chose de inné ou quoi que ce soit. Même moi qui ai construit une imprimante 3D, c'est pas quelque chose que voilà quoi. J'ai pris du temps, j'ai étudié la question. C'est un avantage, c'est que ça te permet d'apprendre en fait, parce que tu regardes sur Internet comment les autres ont fait. Et tu adaptes la technique à ce que tu as, à tes besoins, etc. Et donc ça te permet d'apprendre. Comment on fait des objets sur un ordinateur. Moi je ne sais pas vraiment comment on fait, mais bon je vais me plonger dans la question et voir comment quel outil on utilise et comment on crée. Donc à partir, admettons, je vais commencer par faire un cube, puis ensuite peut-être je vais rajouter des choses dessus, faire des trous dedans et voir ce que ça peut me donner et ce que je peux faire à partir de ça, quoi. Donc c'est accessible à tous, mais ça demande un temps d'adaptation, enfin d'éducation, et enfin ça demande du temps, quoi, c'est tout.
Ouais, du temps d'apprentissage. À la fois, il y a sans doute une dimension purement mécanique pour la partie, voilà, le robot qui, lui, va façonner la pièce, et une partie plus informatique pour maîtriser le logiciel qui va nous permettre de donner des infos à l'imprimante sur ce qu'elle doit imprimer. Il y a un peu ces deux pendants.
En fait, oui, c'est vrai, il y a ces deux pendants. Et il y a un autre pendant, c'est que si tu fais toi-même ton imprimante 3D, donc tu as bien sûr la mécanique, il faut savoir comment fabriquer la machine, donc comment ça fonctionne, les axes, comment ils vont glisser, comment ils vont être entraînés. Tu as un peu d'électronique, parce qu'il faut contrôler les moteurs, etc. Donc les faire bouger, détecter les fins de course des moteurs, etc. Donc ça demande un peu de notions d'électronique. Mais ce n'est pas des grosses notions insurmontables, hein. C'est de la base, quoi. Et donc ça demande aussi un peu d'informatique, parce qu'il faut... il faut mettre du logiciel sur la machine pour la faire marcher et donc adapter éventuellement ce logiciel un petit peu. Et ça, ça demande un peu d'informatique, enfin un peu de connaissances en informatique, mais pas quelque chose d'insurmontable non plus. Mais ça demandera du temps pour apprendre, quoi.
Oui, comme beaucoup de choses, quoi, il faut consacrer du temps et se pencher sur la question, se former... lire des livres, des forums, etc. pour
voilà, mais c'est un bon moyen pour apprendre à avoir des connaissances en mécanique, en électronique et en informatique. Ça, on peut commencer en ne sachant rien du tout, et à partir de là, si on connaît les bonnes personnes, éventuellement, si on sait où chercher l'information dans les moteurs de recherche, on peut s'en sortir et vraiment apprendre ces trois dimensions qui sont la mécanique, l'électronique et l'informatique. Mais les bases seulement, ce qui est déjà pas mal.
Oui, les bases, c'est ça reste quand même quelque chose d'honorable à apprendre. Enfin, ça demande du temps et effectivement, ça demande de l'apprentissage. Donc là, bon, on est dans le cas un peu de la personne passionnée qui va vouloir elle-même faire son imprimante 3D, comme il y a ceux qui veulent monter leur propre ordinateur en achetant une pièce par-ci, une pièce par-là pour leurs propres besoins. Après, j'ai l'impression, vous allez me dire si mon impression est bonne ou pas, j'ai l'impression qu'on essaye de nous vendre l'imprimante 3D, alors pas forcément du côté faites-la vous-même, vous apprendrez l'électronique, etc., mais plutôt, bon, ce sera dans le futur en tout cas, peut-être pas maintenant, mais dans le futur, un appareil qu'on pourra acheter, je sais pas, dans n'importe quel magasin ou chez Darty ou autre, comme on achète actuellement une imprimante, on va dire classique, 2D sur papier, et qu'on pourra avoir chez soi et qui nous imprimera X objets. J'ai l'impression qu'on en est encore un petit peu loin, mais en gros, j'ai ce sentiment-là, c'est qu'on nous dit, le futur, c'est comme chacun a ça, ou quasiment chacun a sa machine à laver, son four micro-ondes chez soi, chacun aura son imprimante 3D chez soi qui lui fera ses objets à la demande, sur mesure, Alors même si aujourd'hui ça coûte extrêmement cher, je crois, hein, ça doit coûter 15 000 euros ou 20 000 euros une imprimante.
Non, ça a beaucoup. C'est justement ça a beaucoup baissé et c'est pour ça que les journalistes spéculent un peu là-dessus.
Qui fantasme. Tu as une idée à peu près du prix grosso modo d'une fourchette actuelle?
Alors pour les technologies de base d'imprimante 3D de base, tu peux en avoir pour entre 1000 et 3000 euros. Voilà, globalement. D'accord. Je dirais, voilà.
Toi, là, c'est le prix que tu as mis dans ton imprimante en gros.
Non, c'est si tu veux acheter une imprimante toute faite, ouais. Toute belle. D'accord. Voilà, tu en as pour ces prix-là, je dirais, ouais, dans les 2000 euros. Voilà. Peut-être qu'à 1000 euros, tu dois avoir une imprimante, mais tu dois peut-être mettre un peu les mains dans le cambouis. Hein, mais voilà, à 3000 euros, ouais. Tu as une imprimante toute belle, toute finie.
Alors, disons grosso modo 3000 euros quand, pour se donner une idée. On peut avoir aujourd'hui une imprimante 3D qui va nous faire des pièces sur mesure à la maison. Quoi.
Voilà. Mais donc, là, si tu ne veux pas mettre autant d'argent dans une imprimante 3D, que tu veux quand même faire une imprimante 3D, et éventuellement que tu veuilles apprendre la technique, tu peux fabriquer toi-même ton imprimante 3D. Et ça coûte moins cher. Ça coûte quand même cher, hein, faut pas déconner. Hein. Ouais. Tu peux en avoir pour 300 à 400 euros environ.
D'accord, si tu l'as fait toi-même comme toi t'as fait.
Voilà, c'est ça.
Mm-hmm. Donc ça reste un budget, ça reste 10 fois moins cher quand même que de l'acheter toute faite, mais ça reste un petit budget pour l'achat des pièces de base, j'imagine, que tu voilà. Glanes un peu à droite à gauche.
Ouais, il faut que tu achètes les moteurs par exemple, j'imagine, les axes, tu peux difficilement les faire toi-même. Quoi.
Oui, il y a tout un certain nombre de composants que tu es obligé d'acheter. En fait, tu es obligé d'acheter pratiquement tout, sauf si tu connais quelques personnes où tu peux récupérer droite à gauche. Voilà, ouais. Mais...
Ou tu peux les faire à partir d'une autre imprimante 3D, quoi, certaines pièces.
Voilà, c'est ça. Mais on va en parler peut-être après une petite pause musicale.
Allez, vas-y, on voit du son.
Cause nowhere
Alors, vous venez d'écouter, juste à l'instant, c'était l'escalope. La chanson, c'était mot pour mot. Et juste avant, c'était The Skins, Rise Up. Allez, à vous.
Eh bien, rebonsoir. Vous êtes toujours dans notre émission, l'émission du S2I, syndicat de l'industrie informatique. Ce soir, on parle d'un sujet qui recouvre un peu le do-it-yourself, les choses qu'on peut faire par soi-même. Et on parle principalement, depuis le début, de l'imprimante 3D, qui est un petit peu à la une dans les médias. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à... Ah oui, t'as raison, oui, il me fait signe. Je vais rappeler le numéro de l'émission, si vous voulez nous appeler, de préférence pendant les pauses musicales. Le 01 43 71 89 40. Et donc, hop, je rattrape ce que je disais. Je vais passer la parole à Clément qui a eu une personne au téléphone qui nous disait quelque chose d'assez intéressant.
Oui, j'ai une auditrice très intéressante sur le standard du studio. Alors, je suis désolé, je vais un peu massacrer son... Enfin, je vais mal résumer son propos, mais elle me disait avec les imprimantes 3D, on apprend des ce dont on parlait auparavant, donc on apprend des compétences en mécanique, en informatique, en électronique. C'est des compétences qu'on pourrait obtenir d'une autre manière qu'avec des imprimantes 3D. Et effectivement, je pense que tous les trois ici dans le studio, on est parfaitement d'accord. Et qu'effectivement, les gens qui sont susceptibles d'utiliser ou de fabriquer des imprimantes 3D sont déjà des gens qui sont portés au bricolage. Enfin, on voit l'exemple de Colin. Voilà, c'est un geek qui fait de l'informatique. donc, c'est pas... Moi, les autres personnes que je connais qui ont des imprimantes 3D, je pense à un ancien intervenant sur cette émission, Jean-Christophe. Pareil, voilà, c'est un geek, un informaticien qui est passionné d'informatique et qui s'est porté là-dessus.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut effectivement avoir quand même une base ou en tout cas une sensibilité déjà à ou l'informatique ou l'électronique ou la mécanique, voire idéalement les trois, pour être tenté de se dire « Tiens, je vais fabriquer moi-même ma machine qui fait que... »
Ouais. Et c'est un peu ce qui est trompeur dans le discours des médias dont tu parlais tout à l'heure, Guillaume, c'est que... Enfin, moi, quand je vois les articles, j'ai l'impression qu'on nous le présente comme ça va changer le monde, plus ou moins. Enfin, bon, c'est mon avis très personnel. Hein. Je veux dire, pas du tout, ça va pas du tout changer le monde. Pour deux raisons, celle qu'on vient de dire, qui est que c'est des gens qui sont déjà dans le domaine du bricolage, du do-it-yourself, qui vont utiliser des imprimantes 3D. Et pour la deuxième raison, qui est que les gens n'ont pas envie d'avoir des objets qui sont personnalisés chez eux ou n'ont pas envie de les faire. Enfin, quand on voit les objets technologiques actuels, c'est hyper, super standardisé. Tout le monde va avoir un PC de 2-3 marques différentes. Et par exemple, aujourd'hui, pour des PC, vous pouvez facilement assembler votre ordinateur en achetant les différents composants. Et pourtant, ce n'est pas du tout, le courant principal. Donc, moi, ce qui me choque le plus dans le discours sur les imprimantes 3D, c'est quel le nombre de personnes qui vont les utiliser et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire avec, quoi. C'est-à-dire que dans un monde où tout est standard, qu'est-ce que tu fais comme pièces qui vont être propres, quoi. Je veux dire, tu ne peux pas bricoler ton frigo, tu ne peux pas réparer quelque chose qui est déjà industriel, tu ne peux pas le réparer avec une imprimante 3D, par exemple.
Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord. On peut réparer des choses faites industriellement avec une imprimante 3D.
D'accord,
tu peux pas tout faire, hein. Ça reste limité, mais tu peux quand même réparer certaines choses.
Ouais, mais il n'y a pas d'industriels, par exemple, qui vont te donner les plans de ce qu'ils t'ont fourni de manière à ce que tu puisses facilement reproduire les pièces.
Ah bah oui, mais il faut sortir ses règles et puis hop, hein, voilà quoi. C'est voilà, du do it yourself, hein, fais-le toi-même. Alors tu sors ta règle, tu mesures, tu fais le plan et tu redessines ta pièce. Ok, oui, c'est un peu compliqué, mais voilà. Ça se fait.
Mais ça sera pas un monde où facilement tu peux bricoler des objets que tu as obtenus d'autres manières, des objets qui vont être modulaires où tu vas pouvoir ajouter des morceaux, des choses comme ça. On va toujours rester dans le enfin tant que t'es dans un monde avec des objets industriels, tu vas rester dans le domaine du bricolage, quoi. Sauf si t'es un bricoleur hardcore, hein. Je ouais. m'entends.
Mais si t'es très très fort, après tu peux concevoir toi-même ton frigo
de A à Z,
toutes tes pièces personnalisées. Mais là c'est vrai qu'on rentre quand même dans un méchant délire. Enfin, c'est quelqu'un qui, quand même, s'y connaît vachement en climatisation, en électronique, en mécanique, etc., en informatique, en logiciel 3D et compagnie. C'est un sacré niveau.
C'est pas un nombre de personnes qui va changer le monde. Malheureusement, hein, je veux dire, je serais tout à fait heureux que ça se passe comme ça, hein, mais bon, c'est pas le cas.
Et c'est vrai que la question que tu posais, enfin, je crois en substance, c'est la question de qu'est-ce qu'on va en faire.
Exactement.
Autant c'est vrai que je comprends très bien ce que dit Colin quand il disait c'est un moyen de se former, on apprend des choses intéressantes. Et ça, je le conçois tout à fait. C'est vrai, tu te passionnes pour quelque chose, tu dis ah ouais, ça marche comme ça, une pièce, ok, c'est super. Moi, je fais beaucoup ça dans mon domaine qui est les sites internet. Des fois, tu dis ah ouais, génial, je peux faire tourner une bannière comme ça en JavaScript, machin, t'arrives à faire des trucs, t'es super content de toi. Mais après, il y a la question, si on se focalise sur cette imprimante 3D, de qu'est-ce qu'on va en faire fondamentalement, à quoi ça va servir et quelles conséquences ça va avoir derrière. Et ça, je le mets un petit peu en parallèle de la notion de do-it-yourself. On en parle pas mal, je crois, j'ai l'impression, dans nos milieux libertaires, c'est bien de se réapproprier les techniques, de savoir faire, plutôt que de toujours déléguer, après on ne sait plus rien faire. Autant je suis assez d'accord avec ça, autant cette imprimante 3D, elle me gêne un peu, parce que j'ai l'impression que c'est... Elle n'est pas dans notre camp, on va dire. Voilà. C'est ça qui me gêne, en fait. J'ai l'impression qu'elle est plutôt... dans l'autre camp. Je m'explique sur ce que je veux dire. Ok, on pourrait la voir effectivement sous l'angle de j'ai une machine chez moi à la maison qui me permet de faire ce que je veux. Donc j'ai une pièce qui claque sur mon appareil X ou Y, je rentre dans la machine un code, elle me refait la pièce, je change la pièce, ça m'évite de racheter tout un appareil, ça me permet de court-circuiter l'obsolescence programmée. Pourquoi pas ? Mais j'ai plutôt ce sentiment que c'est l'aboutissement, enfin c'est en tout cas la nouvelle chose qu'on nous sort dans l'esprit vraiment capitaliste consumériste. C'est-à-dire que on va pouvoir être capable, chacun chez soi, alors peut-être pas tout de suite, mais dans 5, 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, je ne sais pas, on va pouvoir chacun chez soi fabriquer tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, je me fabrique ça, demain, je me fabrique ça, et encore ça, et encore ça. Donc en fait, cette profusion d'objets, de biens de consommation qui est l'apanage de ce monde capitaliste consumériste, a priori avec lequel on s'inscrit en faux, j'ai l'impression que c'est vraiment... cette imprimante 3D apporte ça à la maison. C'est-à-dire on va pouvoir multiplier les objets... chez soi, on n'aura même plus besoin d'aller au magasin, d'acheter des objets standardisés. C'est voilà, j'ai envie de ça, bah, je me le crée, j'ai envie de ça, je me le crée. On va encore un petit peu plus loin dans la logique actuelle qui est cette logique du je veux, j'ai. Et demain, ce sera encore plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais dans un magasin ou je vais sur internet, je commande, je réceptionne un objet. On est déjà vachement dans ce système. Demain, j'ai même plus besoin, j'appuie sur un bouton. Et je tends le bras, j'aurais même plus besoin de me lever de mon canapé, j'aurai mon objet sous la main. Et une heure après, je peux me faire un autre objet, et une heure après, encore un autre objet. Donc j'ai vraiment l'impression que cette imprimante 3D, en tout cas cette idée d'imprimante 3D, elle est dans cette logique-là. Et c'est pour ça qu'elle me gêne autant. Parce que vous en pensez.
Bah, cette moi, comme je l'ai dit avant, je pense qu'on n'arrivera pas à un état où... les gens n'auront ni les imprimantes 3D, on aura la capacité d'imprimer beaucoup d'objets différents, avec les contraintes qu'on a expliquées sur le fait que, pour le moment, ça fait que des objets en plastique simples, et sur le fait que les gens n'ont pas ni le temps ni l'envie d'avoir des objets personnalisés. Bon, là, dans ta dystopie, c'est les gens impriment des objets qui sont standards.
Ouais. Voilà. Imaginons que ce soit simple, voilà. Imaginons un futur où ce soit hyper simple, par commande vocale, où tu as un petit catalogue et tu dis bah tiens, imprime-moi le composant qui me permettra de réparer mon frigo qui est cassé sans qu'il y ait besoin de compétences techniques.
Là, si t'as pas besoin de compétences techniques, vraiment c'est le cauchemar, quoi, parce que t'as rien appris et t'es effectivement dans ce que tu décris avec t'as encore diminué les interactions sociales, t'as pas besoin de sortir de chez toi. Et c'est triste, quoi.
Parce qu'à la limite, le supermarché, bon. J'aime pas bien ça, c'est vraiment le symbole de toute la société que je souhaite combattre. Mais au moins, s'il a ce petit avantage, c'est qu'il y a des gens qui sortent de chez eux, qui se retrouvent dans un espace public et qui ont un petit peu conscience qu'ils font partie d'un système et qu'ils ont des liens entre eux. Alors là, si on n'a même plus tout petit dernier mini avantage qui restait au supermarché. Chacun reste chez soi et hop, les objets ils tombent d'un tuyau ou d'une machine qui s'ouvre périodiquement, je sais pas, une fois par jour, une fois par semaine. Ouais, c'est...
Ouais, c'est un peu dommage. Très, c'est pas joyeux.
Mais là, quand même, je vous interromps un peu, c'est une version fantasmée quand même, hein, parce qu'on est quand même très, 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 très loin de ça.
On est d'accord.
Aujourd'hui, oui.
Pour replacer un peu l'esprit de ceux qui ont construit les premières imprimantes 3D qui sont démocratisées et que tout le monde s'inspire pour reconstruire les leurs ou faire des produits finaux que tu pourrais acheter directement, tout ça, leur état d'esprit, c'était un esprit de partage. Donc, c'était pas du tout l'idée de rester chez soi à rien faire, à imprimer des objets. C'est, on partage les idées.
Les connaissances, tout ça.
Voilà, on commence. On court-circuite un peu tout ce système capitaliste, justement, en faisant soi-même ces choses, au lieu d'aller les acheter bêtement, les trucs standardisés. Donc, on personnalise les choses pour soi-même. Bon, comme tu l'as dit, ça demande des compétences. Ça demande du temps, ça demande, oui, ça demande pas mal de choses.
Oui. Mais en fait, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans notre monde tel qu'il est conçu actuellement et dans l'état d'esprit actuel, mettre une imprimante 3D dans les mains de l'Homo sapiens tel qu'il réfléchit actuellement dans nos sociétés, ça me paraît assez dangereux. Parce que je pense pas qu'il va avoir cet état d'esprit de « je vais court-circuiter un système, je vais utiliser la chose avec parcimonie dans tel but précis, etc. » Mais plutôt, j'installe ça chez moi et je me gave, quoi. Je me gave de tout ce qui est possible. Je l'envisage plutôt comme ça, a priori.
Mais tout ça a un coût. Enfin, il peut toujours se gaver. Actuellement, tu peux aller au supermarché, te gaver.
Oui.
Ça a un
goût.
Ça a un coût.
Complètement. Mais c'est pour ça, pour moi, c'est dans la même logique, on va dire. C'est là, aujourd'hui, on se gave dans un supermarché. Demain, on se gavera dans un supermarché et sur Internet et avec son imprimante à la maison. Peut-être que ce sera 100% l'imprimante à la maison ou je ne sais quelle combinaison de façon de faire. Mais vu l'état d'esprit, en tout cas, j'ai des forts doutes sur l'utilisation... humaniste et solidaire de l'idée d'origine.
Peut-être. Et effectivement, ça peut arriver, on peut arriver à ce point extrême du consumérisme. Mais à côté de ça, les imprimantes 3D peuvent quand même permettre de faire autre chose, de sortir de ça. Et donc, parce que de sortir de cette consommation et de permettre de faire soi-même les choses. Voilà. Au lieu d'acheter des choses préfabriquées qui répondent à un besoin plus ou moins général ou plutôt au besoin qu'on veut te faire croire que tu as, alors que pas forcément. Hein. Oui. Alors là, dans le cas des imprimantes 3D, c'est que si tu veux avoir quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, tu as toute une démarche intellectuelle à faire. Donc est-ce que j'ai besoin de ça? Si j'ai besoin de ça, il faut que je le construise de telle façon. Et ça demande toute une réflexion que tu n'as pas forcément quand tu vois la publicité pour ton dernier iPad que tu vas acheter bêtement à la Fnac.
Ouais, ça je suis d'accord. Effectivement, il y a ce côté où il y a un minimum de réflexion. Quand tu dois faire quelque chose toi-même, tu te poseras toujours la question de « Ok, est-ce que je le fais? Pourquoi je le fais? Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce qu'il faut que je demande à un copain? Est-ce qu'il faut que j'aille voir machin ?» Donc ça, ouais, effectivement. Je suis assez d'accord sur cette notion-là. Mais je suis toujours sceptique sur la façon dont ça pourrait être utilisé. Et en fait, ce que tu disais, c'était intéressant sur la standardisation. Là, aujourd'hui, effectivement, on nous propose tout le temps des produits standards où on n'a pas le choix de personnaliser. Entre guillemets, on ne peut pas s'exprimer véritablement, individualiser notre façon d'être, notre façon de faire par tous ces objets qui sont très standardisés. Mais est-ce que cette imprimante 3D, une fois que chacun l'a chez soi et peut faire, admettons, pareil, hein, on est dans un côté fantasmé, mais c'est ce qu'en tout cas, il me semble en nous vend. Admettons qu'un jour, on puisse fabriquer vraiment sur mesure ce qu'on veut. On peut vraiment personnaliser le truc. est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que chacun, chez soi, peut faire ce qu'il veut comme il veut ? Est-ce qu'on n'est pas dans l'étape supplémentaire, l'étape maximale de l'atomisation de la société que nous propose finalement le capitalisme depuis X décennies, où chacun est dans son coin, chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut ? C'est-à-dire que moi, par exemple, demain, j'ai une imprimante 3D, je sais m'en servir, je sais faire un modèle 3D, n'importe quoi. Je décide de fabriquer une bombe de 300 kilos chez moi, parce que c'est mon droit, parce que c'est mon inspiration, parce que c'est ma créativité, parce que j'ai la machine qui va bien. Je fais une bombe de 300 kilos dans mon appartement, volontairement ou pas, ça pète. Je fais sauter mon immeuble. Ça me pose un vrai problème. Parce que c'est vraiment, on n'est plus dans la société. Il n'y a plus de social. C'est l'être humain individualisé à fond, chacun chez lui. Moi je fais ce que je veux. Alors que moi, j'aimerais pouvoir interdire à mes gosses, à mon voisin, à ma grand-mère, de fabriquer une bombe de 300 kilos.
Ah bah oui,
ça aberrant.
Ça, c'est un peu de l'éducation. Hein. Tes gamins, oui. Si tu les éduques pas, après, c'est ton problème. Hein. Mais enfin, c'est pas que ton problème. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une imprimante 3D pour fabriquer une bombe de 300 kilos.
Non, une bonne bouteille de butane, et c'est bon.
Voilà quoi. Suffit de chercher un peu, mais il n'y a pas besoin du tout pour faire des armes. Il n'y a pas besoin d'imprimante 3D. Hein. On peut faire des armes autrement. Beaucoup plus facilement d'ailleurs. Hein. Bon,
voilà. Oui, non, mais c'est sûr, avec une lame de rasoir.
Souvent, on donne l'exemple d'un Américain qui a construit une arme à feu à partir d'une imprimante 3D. Donc, il a dessiné ses plans et il a attendu que son imprimante 3D lui fabrique son arme. Voilà. Mais on peut fabriquer des armes à feu autrement qu'en plastique et autrement qu'avec une imprimante 3D. Hein. Il y a des manières beaucoup plus simples.
Pas d'ailleurs le plus simple aux États-Unis, c'est carrément d'aller en magasin et d'acheter. Ça devait être un geek qui voulait vraiment tester le truc, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, à la limite, le plus simple, c'est carrément de l'acheter toute prête.
Donc, le fait de vouloir interdire aux gens de faire des choses avec les imprimantes 3D, ça me pose problème, quoi. Enfin, tu peux pas leur interdire de faire. Enfin, c'est un peu leur problème. Bon, même si s'ils fabriquent une arme à feu pour te tirer dessus, c'est un peu gênant. Mais
ah oui, voilà, quoi. Oui.
Ils peuvent.
Enfin, moi, ça me gêne.
C'est en fait l'imprimante 3D, c'est un outil. C'est comme l'informatique. L'informatique est un outil, comme un marteau est un outil. Donc après, ce qu'on en fait, ça dépend.
Ouais, non, mais tu peux pas interdire l'outil, mais tu peux interdire ses applications. C'est actuellement le cas. Genre, oui. Effectivement, tu peux acheter une bouteille de butane, mais tu n'as pas le droit pour autant de faire une bombe. Quoi.
Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'outil à blâmer.
Non, non, c'est son utilisation.
Mais ce qui me vient en tête, c'est... Il me semble que d'un point de vue social à la fois et écologique d'autre part, le plus pertinent... serait la fabrication en commun, peu importe de ce que ça peut être. Effectivement, il y a un côté un peu déshumanisant d'avoir tous la même table de salon chez soi et tous le même appartement et tous la même automobile si on a des automobiles, sans tomber non plus dans l'uniformité totale de tout le monde. Il me semble... En tout cas, c'est la façon que j'ai de voir de concevoir la société, que se réunir périodiquement et d'une manière démocratique, directe, pour nous en tout cas, décider de quels sont les produits qu'on va fabriquer, quels sont les produits qu'on ne va pas fabriquer, pourquoi on ne les fabrique pas, etc., etc. C'est complètement dans, en tout cas de moi, de ce que j'ai compris d'une démarche libertaire, communiste libertaire, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait une interaction entre des individus qui composent une société et qui vont dire, nous autorisons ça, nous nous interdisons ça, nous choisissons de fabriquer ceci ou cela, et pas ceci, pas cela, pour les raisons X ou Y. Et j'ai l'impression que dans cette notion d'imprimante 3D, par exemple, on perd complètement tout ça. On n'est plus que des individus les uns à côté des autres.
Ça,
chacun
c'est...
fait son affaire.
Ouais, ça, c'est dans effectivement ta vision apocalyptique que tu as décrite tout à l'heure, future.
Et moi, je suis toujours apocalyptique, de base.
Mais actuellement, c'est pas le cas. Enfin, c'est plutôt le modèle décrit par Colin. Avec, tu peux trouver beaucoup d'aide sur Internet. Tu as aussi beaucoup d'aide dans des clubs de bricolage, mais ils ont des noms plus sexy, ouais, c'est ça. Je pense à Nancy, par exemple, il y a le club Nibi, le Nancy Bidouille. Et voilà, c'est des gens qui sont passionnés, entre autres, d'informatique et qui ont plusieurs membres qui ont fait des imprimantes 3D. Et là, tu vas plus être dans le domaine du social, c'est-à-dire on va se regrouper pour essayer de créer un moyen de production, donc une imprimante 3D, qu'on va mutualiser en la mettant dans notre local partagé. Et ça, ça se rapproche évidemment d'une vision libertaire et autonome de la société qu'on défend chacun. Mais malheureusement, moi, j'ai pas l'impression que c'est un futur probable avec des unités de production locales ou à petite échelle basées sur des imprimantes 3D. Je pense que il y a pas cette envie dans la mentalité actuelle, qui est vachement, comme tu l'as dit, hein, porté par le capitalisme, quoi, qui nous donne plein de... qui nous contrôle un peu, quoi. C'est-à-dire nos désirs, tout ça, nos émotions, elles sont influencées par la société dans laquelle on vit. Et actuellement, c'est pas du tout le modèle, voilà, de revenir à une production locale qui sera décidée démocratiquement, etc.
Oui, bah, c'est fondamentalement ça qui me gêne. Parce que finalement, l'imprimante 3D... D'ailleurs, c'est pareil, on nous dit ouais, innovation, le nouveau truc, machin. Je suis pas sûr que ce soit très, très nouveau. Enfin, des robots qui fabriquent des objets, je pense que ça existe depuis pas mal d'années. Alors, peut-être une technologie un peu différente, peut-être sous une forme un peu différente, ça je dis pas. Mais en tout cas, des machines qui fabriquent des objets ou d'autres machines, ça existe depuis quand même un bail. Donc là, on est plutôt en train de parler, finalement, quand on parle d'imprimante 3D, me semble-t-il, ce que les médias appellent démocratisation d'une technique.
C'est ça, parce que le prix a baissé. Quoi.
Le prix a baissé. Donc voilà, en gros, on sait que petit à petit, chacun individuellement pourrait bénéficier de cette capacité. Mais moi, personnellement, je vois pas ce que monsieur tout le monde, ce que moi, dans mon appart, je vais faire avec une imprimante 3D. Je vois pas la logique, en fait, dans une société. Pourquoi est-ce que chacun aurait chez lui la possibilité de fabriquer tous les objets qu'il veut ? Est-ce que c'est pas plus logique de se réunir et de se poser la question de quels objets on va fabriquer, okay, quels moyens on met en place, les usines, les personnes, etc. Et je crois que je vais vous libérer le cerveau là-dessus, puisque Colin souhaite nous passer un peu de musique.
Abruti en trois lettres, le roi des corps. Et sur le podium, en troisième position, nous avons un adolescent crétin qui mâche son ongle incarné en chantant la Marseillaise. Et en deuxième position, nous avons un contorsionniste qui nous demande, vous savez ce que c'est de trou dans un trou, et là il se met son nez dans son cul. Et en première position, sur le podium, nous avons un amnésique qui se met un doigt dans l'anus, puis le porte à sa bouche pour se rappeler ce qu'il a mangé la veille. Mais c'est de la merde! Mais c'est de la merde!
Verra le jour qu'avec la rosée, d'ailleurs l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, rien qu'y penser. Puis pas à pas, se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatigué mais content de quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage. Ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage. Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler. À emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. S'est enclenché, à peine le plancher foulé. 8 heures à tenir et pas question de flancher. Sinon c'est la porte. Des gars comme lui, y'en a à l'appel. Profession, OS, comme ils les appellent. Dans les boîtes d'intérim, ouvrier spécialisé. Ferme là et trim, l'exploitation est officialisée. Subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Façon l'une fait que ça de cogiter. Même agité, pense à tout pour s'évader. Vois ces gosses gambader, se rappelle du week-end dernier. Des conneries du JT, merde, descend vite fait sur terre. Son chef l'interpelle, à défaut de personnel, lui file du taf supplémentaire. A envie de s'occuper de son cas, lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le contrat il y a 3 mois chez Adeco. Maintenant, ça lui fait de presse, plus de stress. Il galope de poste à poste avec cette cadence qui l'oppresse. L'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose, 1h30, que vienne son heure de pause. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Il barque la dernière moulée. On vient le remplacer, quitte enfin l'atelier, t-shirt mouillé, dos cassé, grimpe les escaliers, va pouvoir pisser, se laver les mains, fissa avant de pouvoir les crailler. Dans le local, qui est tellement sale, quand en normal, ça aurait dû déclencher une lutte syndicale, mais que dalle. Depuis le dernier plan social, peur d'espérer mieux. On a vu à quoi ça mène de l'ouvrir dans cette PME, ça parle PMU à côté de lui. En face, les vieux un peu émus rêvent d'une issue pour avoir ce qu'ils n'ont jamais eu. Deux, trois conneries de sortie, dans 10 minutes c'est reparti. Fini sa gamelle, vite pour fumer la camelle, le cul posé sur le quai dehors. Son seul plaisir, apprécier le calme de la ville qui dort. Avant de reprendre l'effort, il écrase son mégo, rentre croise aussitôt. Son chef qui râle pour la minute de pause en trop. Me voilà nouveau entre deux moules qui s'ouvrent et se referment chaque 30 secondes chrono. Éjecter une pièce qu'il faut couper, séparer, jeter, poser dans le chariot. Et ouais, la nuit, le jour, ici, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie.
Alors, vous venez d'écouter Tasmaniac qui chantait Le Roi des Cons, suivi de La Canaille qui chantait L'Usine. À vous.
Et re-re-bonsoir. Vous êtes toujours dans l'émission du syndicat de l'industrie informatique qui s'appelle Les Débogueurs du Système. Ce soir, nous vous parlons principalement de l'imprimante 3D, mais on inclut un petit peu ce thème dans la notion de do it yourself, donc le fais-le par toi-même. Je vous rappelle, avant de reprendre le numéro, vous pouvez nous joindre, de préférence pendant les coupures musicales si possible, le 01 43 71 89 40. Et justement, on a une personne qui nous a appelé pendant la coupure qui vient de se passer et qui nous disait qu'il avait été témoin à du côté de Cergy, à l'université de Cergy-Pontoise, d'un Fab Lab. Donc les Fab Labs, c'est une notion qui vient des États-Unis, du MIT, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Enfin, vous regarderez sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, c'est une mise en commun d'outils et de connaissances et vient qui veut pour partager les connaissances, utiliser les outils et réaliser des projets. C'est exactement la même chose que ce qui existe par exemple... pour les vélos, il y a des ateliers vélos, donc il y a un local, il y a des pièces, il y a des gens qui ont des connaissances pour fabriquer ou réparer ou customiser les vélos. Bah là, c'est pareil, ça peut être pour des projets mécaniques, ça peut être pour des projets informatiques. Potentiellement, ça peut être pour un petit peu tout. Et voilà, il y a des personnes qui ont les connaissances, qui ont déjà réalisé des projets. Et chacun vient, réalise son projet. La seule condition, c'est de laisser, on va dire, les connaissances... à ceux qui vont suivre, c'est-à-dire j'ai réalisé mon projet, voilà comment j'ai fait, quels outils j'ai utilisés, voilà, vraiment dans l'idée de partage de connaissances. Et donc il précisait que ce Fab Lab de Cergy utilisait entre autres des imprimantes 3D pour réaliser ce type de projet. Donc voilà pour le résumé des épisodes précédents. Et alors, donc nos imprimantes 3D, revenons-y. On parlait donc des applications possibles qu'on pouvait y trouver, du bien et du moins bien. Alors c'est vrai qu'au niveau des applications, juste avant peut-être de parler du coût énergétique sur lequel on va revenir, les applications possibles qui s'esquissent, parce qu'elles n'existent pas actuellement, Colin expliquait en début d'émission, pour l'instant on fabrique principalement des pièces en plastique et qui ne sont pas forcément d'une précision et d'une qualité extrême pour l'état actuel des choses. Mais on imagine que dans le futur, ça puisse servir à des applications type pour la médecine, créer des organes artificiels, des prothèses de membres coupés, prothèses X ou Y, je ne sais pas, auditives, tout ce qu'on veut. Un œil de verre ou un œil de remplacement, peut-être. Bon, là, je fais un peu ma science-fiction. On ne sait jamais. Alors toujours pareil, je vais radoter, parce que moi j'aime bien radoter. sur ces applications, effectivement, je trouve ça intéressant. Donc, quand je dis, je suis toujours sceptique sur l'imprimante 3D et j'aime pas bien ça dans l'idée. Effectivement, quand quelqu'un me dit ça peut être bien, on peut fabriquer des prothèses ou des organes artificiels pour ceux qui en ont besoin, je trouve ça super. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui a besoin de... On sait qu'il y a une pénurie d'organes, par exemple, actuellement. Il y a plus de personnes qui ont besoin d'organes que de donneurs. Oui, c'est une solution intéressante et je suis tout à fait intéressé dans l'idée que chaque hôpital et chaque clinique ait son... Alors, ça ne s'appellera peut-être pas comme ça, mais disons son imprimante 3D qui fabriquera des organes sur mesure et ou des membres artificiels, des prothèses et tout ce qu'on veut. Et encore une fois, si on se dit « Ok, on a une machine qui a cette capacité dans telle application, par exemple le médical, qu'en tant que société, on est capable de réfléchir et de se dire « Oui, ça, ok, ça, c'est utile et je vote pour que dans les hôpitaux, il y ait une machine qui soit capable de faire ça. » Et qu'après, à l'intérieur de l'hôpital, bah voilà, on s'organise pour dire « Il y a tant de patients qui ont besoin de tant de trucs, et bah, ok, la machine, on la fait tourner et puis elle fabrique les organes, les machins. » C'est quelque chose qui me paraît tout à fait intelligent et intéressant. Après, c'est toujours pareil, voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ça vaut le coup que tout le monde ait son imprimante à la maison ?
Je crois que
voilà,
c'est
vraiment ça.
Ça n'a jamais été la question d'avoir tout le monde, que tout le monde ait une imprimante 3D. Ou alors c'est dans certains esprits, mais pas dans l'esprit de ceux qui conçoivent ces machines-là. Moi, ce que j'aime bien le concret, donc ce qui se passe vraiment. Et donc, par exemple, aux États-Unis, il y a un type qui n'a pas de thunes, qui n'avait pas de thunes ou pas beaucoup. Et qui avait son enfant. Et l'enfant, il est né avec un problème, une dégénérescence au niveau de la main. En gros, sa main ne s'est pas développée. Alors, ce mec-là, il a construit son imprimante 3D. Et avec son imprimante 3D, il a conçu une main artificielle pour trois fois rien pour son enfant. Et donc maintenant, son enfant peut attraper des objets alors qu'avant, c'était impossible vu qu'il n'avait pas de main. Voilà.
Oui. Mais là, ce que je vois dans cette histoire, c'est plus un problème... un problème du système de santé de la société en question plutôt que... Enfin, en gros, l'imprimante 3D effectivement vient aider sur un problème très concret et voilà, je conteste pas la légitimité qu'avait ce père de vouloir trouver une solution pour son fils et le besoin qu'avait ce gamin d'avoir une prothèse pour son bras. Ça me paraît tout à fait légitime. En revanche, là où je m'inquiète, c'est que je me dis, voilà, il y a un mec qui a dû se faire chier à créer une imprimante qui elle-même va créer un membre pour son gamin parce que quoi ? Parce qu'il n'y a pas les moyens, dans le pays le plus riche du monde, de prendre en charge, médicalement parlant, un gamin qui a un souci médical. Et donc là, moi, il y a quelque chose qui...
Ah bah ça, c'est sûr, c'est un autre problème, mais oui, c'est un problème aussi, oui.
Alors oui, effectivement, je suis tout à fait conscient que dans l'urgence, où, voilà, ce père, il est dans une situation difficile, où il est confronté à une société qui est ce qu'elle est, et il ne peut pas dire, ah ouais, mais alors attends, je vais prévoir une révolution pour dans 20 ans, pour que les conditions médicales soient meilleures pour mon gamin. Je comprends tout à fait qu'il ne soit pas là-dedans et qu'il se dise, attends, moi, il faut une solution de suite, je me fais mon imprimante, machin... Mais je vois plus voilà, une notion où on va réfléchir tous ensemble à se dire « Ok, l'imprimante 3D est super, on peut faire des organes, on peut faire des prothèses, ça peut marcher, on va l'améliorer. » Mais voilà, on va l'utiliser dans ce contexte-là. On va la mettre sous la responsabilité de personnels médicaux qui seront formés à son utilisation, qui organiseront la répartition des membres, des organes, des machins, etc. Plutôt que de se dire « C'est à chaque individu chez lui, de résoudre en gros son problème individuel qui peut lui arriver à l'aide d'une imprimante qui, et en plus, qui va devoir faire peut-être lui-même.
Mais justement, tu parlais Par exemple, là, juste à l'instant, tu parlais des Fab Labs qu'un auditeur nous a rappelé, mmh, effectivement.
Ouais.
Mais justement, le Fab Lab, c'est la mise en commun de ces moyens, donc de la mise en commun des connaissances, la mise en commun de cette imprimante pour pouvoir faire les projets, pour répondre aux besoins des gens qui viennent.
Et bien sûr, mais très bien. Hein. Moi, le Fab Lab, très bien. Bon, sauf que là, malheureusement, ce sont des initiatives un petit peu... Chacun de son côté se dit, tiens, je vais faire un Fab Lab, on va se réunir, on va apprendre. Ce n'est pas encore un projet de société, mais c'est vrai que dans l'idée, je suis d'accord, dans l'idée où on met les choses en commun et on essaye d'améliorer des outils qui peuvent servir à tous, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Moi, le souci principal que j'ai, c'est chacun chez soi fait son truc et emmerde les autres. Ça, c'est pas du tout ma vision des choses, c'est la vision, je crois... capitalisto, consumiristo, nanana, en tout cas du monde dans lequel on vit actuellement. Et je me dis, si jamais on doit utiliser un outil tel que l'imprimante 3D, réfléchissons à comment il pourrait servir, dans quelles conditions, etc. Qu'est-ce qu'on en fait, comment
non, mais ça, c'est pas possible. Hein, je veux dire, si.
Il faut que ce soit. Ou alors, on l'utilise pas.
Ah ouais, mais pareil,
c'est pas possible.
C'est pas possible. Le principe de la technologie, c'est si c'est possible, on va le faire. Et ensuite, s'il y a des problèmes, ah mince, on se dira merde. Par exemple, on a commencé par faire la bagnole. On s'est dit après, merde, ça fait des embouteillages monstres. Les gens, ils décident d'habiter loin parce qu'ils peuvent rouler beaucoup. Et en fait, la merde a été déjà là. Et maintenant, on a hérité du système automobile qui a été décidé, j'imagine, dans les années 50-60 où l'automobile s'est démocratisé. On a interdit rien à personne et puis après on se dit ah, en fait c'est pas une super idée. Et là, la technologie, le principe c'est ça, hein, c'est freestyle, chacun fait ce qu'il veut. Et malheureusement c'est super dur de mettre une contrainte sur l'utilisation. Quoi.
Oui, mais je pense pas que ce soit une fatalité. Je pense que c'est la conséquence de notre organisation sociale actuelle,
alors,
notre désorganisation, que chacun dira comme il veut. Mais je pense qu'on peut le concevoir autrement.
Effectivement, c'est peut-être pas dans le politicien actuel, mais ça serait peut-être possible. Sans oublier que avec un objet technologique comme par exemple l'automobile, t'as forcément la société qui va avec. Quoi. À partir du moment où tu décides de l'utiliser, t'as les autoroutes, t'as les banlieues super loin, t'as les supermarchés.
L'organe crée la fonction.
Voilà, c'est ça. Et sur les imprimantes 3D, moi personnellement, j'ai pas de connaissance ou d'intuition sur la société qui va avec l'imprimante 3D. C'est-à-dire, c'est quoi la conséquence de l'imprimante 3D sur la société? Il y a la vision apocalyptique que t'as décrite. Moi, elle me semble peu probable. Il y a ce que j'ai décrit initialement au début de l'émission, qui est, je pense que ça va rester confiné effectivement dans les Fab Labs et les clubs de bricolage et de bidouille, parce que ça demande un investissement en temps, en effort et en envie qui paraît peu partagé par la plupart des gens. Et en même temps, contrairement par exemple, je sais pas, aux tablettes, aux voitures, je vois pas non plus ce que le capitalisme peut vraiment récupérer sur les imprimantes 3D. Je vois pas, par exemple, qu'il pourrait inciter les gens à acheter des imprimantes pour faire des trucs eux-mêmes. Ça me semble, en termes de marketing, j'ai pas l'impression que ça marcherait beaucoup. Alors il y a déjà des gens qui
n'estiment pas le marketing. Ouais, je vois très bien le truc. Moi, je suis marketeur. Je fais un catalogue. D'objets que je peux fabriquer sur mon imprimante 3D. Donc dans ton catalogue, tu as de la vaisselle, tu as des meubles, tu as des objets divers et variés du quotidien, tu as ton iPad, tiens, ton téléphone, machin, tout ça dans le catalogue. Donc tu as numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. qui correspondent chacun des objets. Mmh. Et toi, dans ta imprimante 3D, tu rentres 3X721, tu mets ton code de carte bleue, comme sur Internet, tu valides, ça te retire la somme en question, qui correspond au prix du schéma, on va dire, de ton objet, qui est que le fournisseur va envoyer à ton imprimante. Ton imprimante l'imprime, tu as ton objet que tu as choisi sur catalogue, qui a rémunéré le fabricant de patron d'objet, et voilà, et ça tourne très très bien.
Oui. Oui, ou alors tu fais comme tout le monde et puis tu vas sur The Pirate Bay et tu télécharges la dernière version des pièces de Lego. Aussi.
D'ailleurs, j'ai lu un article comme quoi il y avait un député, je n'ai plus son nom, pardon pour la source un peu merdique, mais j'ai lu qu'il y avait un député, en tout cas en France, qui s'était inquiété effectivement de cette notion-là de « oulala, attention, chacun va fabriquer des objets sans payer les droits d'auteur, vous vous rendez compte, c'est scandaleux, nos entreprises qui vont y perdre, nanana, nanana ». Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est comme pour l'industrie du disque ou du livre ou du cinéma, il y a une question économique qui va surgir, ça peut être très rentable, et en même temps, il peut y avoir piratage, tout ce qu'on veut. 10 minutes.
Mais on n'est pas encore à un degré où tu produis des objets qui vont être d'une qualité équivalente à ce que tu achèterais pour 3 fois rien dans le commerce. Contrairement genre au CD, où là, si tu dupliques un CD, bah, il a exactement la même qualité que le CD précédent, quoi.
C'est vrai que là, aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé encore, mais si on reste, si on fantasme pas encore, mais qu'on reste sur l'état actuel de ce qui existe, ne serait-ce qu'en temps de fabrication et en qualité, effectivement, du produit fini, on est assez loin de fabriquer, là, comme ça, à la maison, le produit qu'on trouverait dans le commerce.
Ouais, notre première auditrice qui s'y connaissait précisait, par exemple, que pour faire une pièce de 10 cm3, donc ça fait à peu près 3 cm sur 3, disons, ça prend 9 heures. Donc, voilà, c'est vraiment pour faire une grosse pièce. Tu parlais de meubles tout à l'heure.
Oui, on n'est pas encore là. Il vaut mieux aller chez Ikea pour l'instant.
C'est ça.
Ouais, 9 heures, ça fait long. En plus, je crois que Colin, tu disais, ça reste pour l'instant, en tout cas, c'est assez bruyant. C'est assez gourmand aussi.
Oui, bah oui, ça fait du bruit. Hein. Il y a des roulements, etc. Donc, c'est des pièces métalliques sur pièces métalliques. Ça fait un peu de bruit. Donc oui.
Ouais, pour l'instant, on n'est pas dans le cas où chacun va l'avoir dans son salon à tourner 24/24, quoi, clairement.
Et surtout qu'en fait, la façon de concevoir les objets, du fait que tu puisses les imprimer comme ça, t'as plutôt tendance, pour les personnes qui vont concevoir des objets, c'est de faire des essais-erreurs. C'est-à-dire, j'ai fait ma pièce, voilà, hop, je l'ai imprimée. Mince, ça ne correspond pas à ce que je veux. Bon, alors, hop, je vais remesurer un peu de trucs, hop, ouais. Je vais modifier 2-3 trucs, là, hop, je vais rétrécir par ici, je vais augmenter par là.
Avoir ta pièce finale,
et je vais réimprimer. Je vais réimprimer à nouveau parce que, bah, pas de bol, j'ai raté un truc. Et donc, on se retrouve avec pas mal de pièces qui sont un peu inutiles.
Tu peux pas refondre le plastique que tu as utilisé
Tu peux, théoriquement, mais ça demande un peu plus de compétences parce qu'il faut pouvoir reproduire du plastique qui soit exploitable à nouveau par l'imprimante. Et l'imprimante, ça utilise des filaments de plastique. Et donc, il faut pouvoir, à partir de la pièce, donc la broyer et recréer un filament. Ouais. Et ça, c'est pas évident.
Il faudrait à la limite une autre machine qui soit capable de transformer.
Justement, oui. Matière. Donc, il faut construire une autre machine. Il faut donc imprimer ta nouvelle machine qui va t'écraser ton plastique pour pouvoir faire. Voilà.
Et donc,
c'est possible. Hein. C'est possible. Il y a plein de monde qui essaye actuellement sur Internet. Il y a plein d'échanges là-dessus. Et donc, je pense que dans pas trop longtemps, il y aura des machines fonctionnelles pour faire ça.
Oui, qui sont spécialisés et qui te serviront qu'à refondre en plastique et à recommencer un cycle.
Voilà, recycler. De bobine.
Et alors, j'ai vu un reportage. Pareil, pardon pour les sources, là, c'est lamentable ce soir. C'était sur Internet, donc je ne sais pas du tout quelle chaîne, quel
source,
journaliste.
Internet.
Voilà, source bidon, Internet, Google, pardon. Mais il passait un reportage donc, où il y avait. Un ingénieur qui expliquait voilà, l'imprimante 3D, où ils en étaient, ce qu'ils faisaient. Là, effectivement, il disait bah, 9 heures, pour, c'est ce que tu disais, pour une petite pièce, machin. Et moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est la quantité d'énergie, alors d'électricité et de flotte qu'il faut pour fabriquer la pièce. Parce qu'apparemment, il y a une phase où tu fabriques, et derrière, il y a une deuxième phase où tu balances de l'eau à haute pression, alors pour nettoyer les impuretés ou je ne sais plus quoi.
Ouais, nettoyer
pareil,
les cavités
aussi. Merci la précision. Mais voilà, pour nettoyer, enfin une deuxième phase. Je sais pas si toi tu utilises ça, Colin, sur la tienne.
Alors oui, ça c'est non, mais ça c'est des principes industriels. Hein, ça, quand tu t'as pas ça à la maison,
tu fais ça.
L'eau sous pression, etc. Non, ça pas du tout. À la maison, t'imprimes et si ça dépasse, il faut nettoyer. Ben, tu prends ta lime, tu prends ta perceuse, tu perces les trous. Enfin voilà quoi.
Artisanal quoi.
Ouais. Non, l'eau sous pression, ça. Non. Par contre, ça demande un peu d'électricité parce qu'il faut pouvoir chauffer le plastique. Donc, le chauffer à une température de 170 degrés environ pour le faire fondre. Donc, du coup, il faut ça demande, ça consomme un petit peu.
Ouais, voilà.
Et pendant 10 heures, 16 heures, le temps de fabriquer ta pièce, bien sûr.
Oui, donc c'est quand même une pompe à électricité pas forcément négligeable. Quoi.
Oui, ou alors c'est un avantage en hiver, ça chauffe un peu. Quoi.
Tu rentabilises, ouais, tu fais chauffer ton imprimante 3D, ça te remplace ton poêle à fioul. Ah, mais je pense, enfin, c'est une question aussi, je vais faire mon décroissant, hein, je suis désolé. Mais sur la question écologique, il me semble que c'est quand même hyper important. Aujourd'hui, on est dans une pénurie, enfin, on n'est pas dans une pénurie, mais on va arriver assez vite dans une pénurie d'énergie fossile, notamment, mais aussi nucléaire, tout ce qu'on veut. On aura beaucoup plus de demandes en énergie que de capacité à la satisfaire. Parce qu'on a passé le pic du pétrole, parce que l'uranium, bah, ça ne s'extrait pas non plus hyper facilement, et puis qu'il y a des stocks qui ne sont pas renouvelables, bref. Alors après, on va me dire les éoliennes, les hydroliennes, oui, enfin, vu la quantité de demande en énergie qui augmente et la capacité à produire de l'énergie des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, je suis assez inquiet sur l'avenir de toute façon, juste pour cet argument purement matériel, d'appareils de type imprimante 3D, parce que je vois mal comment on va les alimenter, d'une part en matière première, c'est-à-dire, tu disais, c'est beaucoup à base de plastique. Le plastique, c'est du pétrole, si je ne me trompe pas. Donc déjà, la matière première, ça risque d'être un peu compliqué. Et après, d'énergie, voilà, d'électricité, éventuellement d'eau. Même si, alors, mettons que chacun reste un peu dans un côté, on le fait chez soi et on n'utilise pas l'eau. Bon, ça fait déjà ça de moins. Mais il reste quand même la question de l'électricité et de la matière première. Je ne suis pas très fort en maths, mais l'équation me semble un petit peu compromise.
Après, c'est vraiment super difficile de comparer, parce que si tu produis localement, tu n'as pas de transport, ou peu de transport.
Tu n'as pas de transport, mais ton électricité, il faut toujours que tu la produises.
Oui, oui, ça, d'accord.
Donc, c'est quand même un gros morceau. Alors, effectivement, bon, si c'est local, ça n'a pas de transport. Donc, tu n'as pas le côté, j'utilise du pétrole pour mon
transport. Après, tu as sûrement une production qui est quand même beaucoup plus énergivore qu'une production industrielle qui va être... tuné aux petits oignons. Quoi. Après, oui. Tu n'auras pas de marketing. Enfin bon, c'est vraiment... Tu n'auras pas de publicité. Bon. Enfin, dans certains scénarios, bien sûr.
Oui,
c'est vraiment super compliqué de savoir. Quoi. Mais je pense que le facteur premier, c'est est-ce qu'on continue à produire plus ou est-ce qu'on diminue, quoi. C'est de là que tout part. Hein.
Oui, bah, après, en l'utilisant de manière... parcimonieuse et dans certains contextes, effectivement, on peut se dire, bah voilà, on est capable de produire tant de quantité d'énergie, telle partie de ce qu'on est capable de produire va aller aux imprimantes 3D qu'on a décidé qu'elles nous serviraient à faire ceci, cela. Dans ce cas-là, moi, je suis d'accord. Après, si c'est de dire, on va être capable d'une manière très large de produire des objets via des imprimantes 3D plus ou moins mutualisées ou complètement individuelles, ou bon, quelle que soit la forme, je vois mal, mais s'il y a un ingénieur qui nous écoute et qui peut proposer une solution, ça m'intéresse. Autre chose ? Ah non, c'était pour savoir s'il y avait une remarque ou si je continuais sur mes tirades monomaniaques et radoteuses. Non mais voilà, en tout cas, bon, pour résumer mon point de vue perso, je suis assez circonspect, on va dire. Je vais pas dire franchement hostile, parce que je vais passer pour le rabat-joie, mais un peu circonspect sur, sur ces technologies-là et de savoir exactement comment ça va servir et à qui ça va servir et qu'est-ce que ça va produire. Effectivement, je pense qu'il y a des applications qui peuvent être très intéressantes et des manières de s'en servir très intéressantes. Dans l'état actuel des choses, ouais, je vais faire mon négatif, mais je suis un petit peu...
Moi, au contraire, hein, je suis très positif. Je trouve que c'est une très bonne idée, ouais. Les imprimantes 3D, et qu'on peut faire... Ça ouvre tout un tas de possibilités infinies à des personnes qui n'avaient pas les moyens de s'exprimer avant, n'avaient pas les moyens d'avoir accès aux outils. Et donc maintenant, ils ont accès à ces outils assez facilement. C'est une bonne chose, ils vont pouvoir faire des choses, s'exprimer, on va dire.
Bah moi, je suis un peu entre les deux. Hein, je dirais.
Ah, très bien. Bonne conclusion.
Comme je l'ai dit, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de monde qui va les utiliser. Et à la fois, les compétences requises sont trop élevées et la qualité de la production est trop faible pour le moment pour que ça soit vraiment un objet qui va changer la société. Je pense que ça va rester anecdotique. C'est mon pari à deux francs.
L'avenir le dira.
Répondra de cette émission.
Exactement. Ben, on va vous souhaiter une bonne soirée. Nous allons rendre l'antenne, passer la main à nos camarades suivants. Et puis on vous dit en principe au mois prochain pour notre prochaine émission. Le site internet du syndicat, t'as raison Colin, faut pas se négliger de faire un petit peu de pub. Le site internet du syndicat, www.syndicat-informatique.fr. Voilà, si vous voulez nous joindre, donc vous avez un mail de contact, n'hésitez pas à prendre toutes les informations nécessaires. Je n'ai rien oublié ?
C'est bon.
On est bon ? Eh bien, bonne soirée à tous et à bientôt.
Au revoir.
Au milieu de ma piole, hein, j'ai garé mon Vespa. Des traces de pneus, des traces de gnolles. Et sous les roues, des traces de chats. Au milieu du saloon, hein, j'ai garé mon Vespa. Y'a un peu d'huile qui coule, mais je m'en fous, c'est comme ça. Je suis un sauvage, hein, j'ai peur de rien. Ni des nuages, ni d'écraser ton chien. Je suis un sauvage, hein, sans état à la main. Je fais un carnage quand je brûle le macadam.